Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Comment va-t-il ? Ni il, ni elle, le pronom Yel entre dans le Robert en ligne pour définir ceux qui ne se sentent ni homme ni femme, ceux qui ne veulent pas de l'écriture inclusive en perdent leur latin. À la une ce matin, il y a aussi ce procès pour complicité d'incitation à la haine raciale. Éric Zemmour en est le prévenu. Les 3 ans des Gilets jaunes, mouvement toujours soutenu par 40% des Français, selon un sondage Ipsos Soprastaria pour France Inter. Et les cas de Covid qui remonte en flèche, 20 000 hier. On fera le point sur l'épidémie en France avec votre invité Nicolas.
Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique, président du comité consultatif national d'éthique. Il répond à toutes vos questions dans une petite demi-heure au 01 45 24 7000.
Et dans le journal aussi, le plein de la voiture toujours plus cher, le plein des avions aussi, hausse des prix des billets à prévoir sur les longs courriers de 20 à 200 euros. Un Brésilien à Paris, c'est l'ancien président Lula, presque en campagne pour la présidentielle de l'an prochain. Et puis rock et radio pirate, ambiance années 80, au cinéma ce mercredi, sortie des Magnétiques, prix de la quinzaine des réalisateurs à Cannes.
France Inter.
Ajouter des mots chaque année comme des signes des temps, le Robert, dans son édition papier, a fait entrer anti-vax et vaccinodrome au printemps dernier. Le voilà qui ajoute YEL au pronom de la langue française cet automne dans sa version web. YEL, I-E-L, contraction de il et de elle, un pronom neutre pour ceux qui ne se définissent donc ni au féminin, ni au masculin. Alice Cachaner.
Il n'est peut-être pas encore entré dans le langage courant, mais le pronom YEL est de plus en plus fréquent, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, un mot valise utilisé notamment par les locuteurs non-binaires, c'est-à-dire des personnes qui ne se retrouvent ni dans le genre masculin ni féminin, explique Marie-Hélène Drivaud, directrice éditoriale du dictionnaire Le Robert.
Ce mot YEL répond également à un besoin. La langue française est une langue genrée. Il faut choisir son camp, il ou elle. Certains n'ont pas envie et ils ont trouvé cette solution qui est bonne ou pas, c'est pas à nous de juger. Ça rend compte seulement d'un usage.
Un phénomène loin d'être anecdotique. D'après un sondage IFOP paru l'an dernier, 22% des 18-30 ans déclarent ne pas se reconnaître dans le schéma fille ou garçon. Pour Lee Ferrero, fondateur de Transat, une association de personnes transgenres, l'arrivée du pronom YEL dans le dictionnaire est une véritable avancée sociale.
Imaginez une situation où votre identité n'est pas exprimable, où on ne peut pas exprimer, communiquer de façon simple et être compris quand on parle de son identité. C'est pas français. On leur disait, ça ne se dit pas, ça n'existe pas, vous dénaturez la langue. Là, avec cette reconnaissance par le dictionnaire, ce sont des arguments qui, peu à peu, vont disparaître.
Se posent maintenant quelques problèmes de grammaire. Comment accorder les adjectifs ou les participes passés avec ce pronom qui n'est ni féminin ni masculin.
YEL, dans la version en ligne du Robert, pendant une période probatoire, sera-t-il intégré dans l'édition papier l'an prochain ? Ce nouveau pronom, en tout cas, fait bondir. Le député En Marche de l'Indre, François Jolivet, il accuse les auteurs du Robert de militer pour une cause qui n'a rien de française, le wokisme. Et il a reçu le soutien de Jean-Michel Blanquer. L'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue, écrit le ministre de l'Éducation nationale sur Twitter. Il ne sera sans doute pas démenti par Éric Zemmour, qu'on ne verra pas au tribunal de Paris aujourd'hui, alors qu'il y sera jugé pour complicité de provocation à la haine raciale et injure raciale. En cause des propos sur CNews il y a 2 ans, dans lesquels il accusait les mineurs étrangers isolés d'être des voleurs, des violeurs et des assassins. SOS Racisme et la Ligue des Droits de l'Homme avaient porté plainte, ainsi que 22 départements, parce que ce sont eux qui prennent en charge ces jeunes migrants. Écoutez Germinal Perrault, président socialiste du conseil départemental de la Dordogne.
J'attends, comme mes collègues présidents de département, que M. Zemmour soit condamné pour des propos totalement odieux qu'il a délivrés envers des enfants qui sont mineurs. Là, il dépasse la provocation, c'est purement de la diffamation. Et dans la mesure où les présidents de département sont les responsables de ces enfants, eh bien, on est là pour défendre leurs intérêts, à la fois matériels et moraux. Il était normal que les présidents de département réagissent, et c'est ce que nous avons fait. Dans un premier temps, nous avons porté plainte. M. Zemmour est convoqué au tribunal à Paris, et maintenant, nous sommes portés partie civile pour lui demander des dommages et intérêts, parce que ses propos sont odieux. Cet homme profère des propos qui sont des propos de xénophobes et de racistes, et c'est insupportable dans la démocratie française.
Éric Zemmour a déjà été jugé une quinzaine de fois pour incitation à la haine raciale ou provocation ces 10 dernières années, condamné 2 fois. Il ne participera pas à l'audience aujourd'hui pour éviter que l'enceinte judiciaire ne se transforme en studio télé d'information en continu, fait savoir son avocat.
France Inter, il est 8h05, c'était un samedi, Florence, le samedi 17 novembre 2018.
Près de 300 000 personnes vêtues du gilet jaune de leur voiture occupent des ronds-points pour protester contre la hausse du prix des carburants dans un premier temps. Puis les samedis de mobilisation se suivront avec des violences et les mots d'ordre s'élargiront à plus de démocratie et de justice sociale. Un mouvement soutenu par l'opinion à l'époque. Qu'en est-il aujourd'hui? 3 ans plus tard, quel est notre regard sur ces manifestations inédites? Ipsos Soprastaria a mené l'enquête pour France Inter et révèle Yael Gauss que 40% des Français se sentent toujours proches du mouvement.
Une page tournée, les gilets jaunes? Pas vraiment. Plus de 8 sondés sur 10 estiment qu'un mouvement comparable peut encore émerger. La moitié l'anticipe même avant la présidentielle. Pourquoi? Parce que la question du pouvoir d'achat reste l'enjeu prioritaire et non résolu pour 63% des personnes interrogées. Les mêmes causes qui ont déclenché l'occupation des ronds-points, les fins de mois difficiles, le poids des taxes, des impôts et l'accroissement des inégalités. Emmanuel Macron a-t-il répondu depuis aux revendications? C'est non à 74%. Les gilets jaunes, toujours soutenu dans l'opinion. Vous êtes-vous senti proche du mouvement? Oui, à 40%, ça ne bouge pas. Ils étaient 42% en 2019, en particulier les moins de 35 ans, employés, ouvriers des zones périurbaines et rurales.
Et à 5 mois de la présidentielle, Yael, est-ce qu'un ou une candidate incarne ou reprend le flambeau des gilets jaunes?
Non, aucun candidat ne peut se revendiquer porte-parole des gilets jaunes, aucun n'est jugé majoritairement proche de leurs revendications. Léger avantage quand même à Jean-Luc Mélenchon devant Marine Le Pen. Les gilets jaunes décriés pour leur recours à la violence, c'est le principal reproche. L'incapacité aussi à s'organiser, les gilets jaunes salués pour avoir fait entendre la voix des invisibles. Il y a un avant et un après dans le quinquennat, le fait d'avoir desserré les cordons de la bourse, expérimenté d'autres formes de démocratie, grands débats et conventions citoyennes. À l'automne 2018, l'exécutif s'est fait peur et depuis Emmanuel Macron est très attentif aux signaux faibles car sur le pouvoir d'achat, l'écart entre les statistiques positives de Bercy et le ressenti reste préoccupant.
Yael Gauss, et c'est avec ce mouvement des gilets jaunes qu'Emmanuel Macron a commencé à se rapprocher des maires. 34 000 élus de terrain qui désigneront aujourd'hui leur président au congrès de l'Association des maires de France. 1 000 000 d'entre eux seront reçus dans la foulée par le chef de l'État à l'Élysée. 20 000 cas, le nombre de nouveaux contaminés par le Covid hier, toujours en forte hausse, quand 135 malades supplémentaires ont été admis en réanimation. Ils sont presque 1300 désormais. Et 48 décès ont eu lieu lors de cette même journée d'hier. Ce mercredi sera aussi la troisième journée de grève générale en Guadeloupe contre la vaccination obligatoire dans les hôpitaux et les casernes de pompiers et contre le pass sanitaire. Seuls 36% des Guadeloupéens sont totalement vaccinés et le mouvement de contestation pourrait s'étendre, Rémi Brancato.
Difficile de circuler sur les ponts entre Basse et Grande Terre. Opération escargot des pompiers de Guadeloupe. 3/4 ne sont pas vaccinés, comme Jocelyn Zou du syndicat FO.
Pour l'instant, nous sommes des parias, la colère monte.
Cette colère et la grève gagnent d'autres professions. Les enseignants, comme Karine Salced, professeure d'anglais au micro de Guadeloupe La Première, pourtant pas concernés par l'obligation vaccinale.
Ce sont les infirmiers, les personnels soignants dans l'établissement, mais on sait que ça nous pend au nez. Pour nos élèves, avoir des grèves et une année un petit peu encore perturbé, c'est difficile, mais la cause est vraiment trop importante pour qu'on reste sans réagir.
Les syndicats misent sur un effet tache d'huile, Max Évariste, secrétaire de FO en Guadeloupe.
C'est surtout aussi un mouvement de soutien aux camarades soignants. C'est pas normal qu'on soit suspendu sans avoir fait de faute.
Des stations essence sont fermées lundi, débloquées hier. Les grévistes demandent des augmentations de salaire. Patrick Collet, le président du syndicat des stations-service, les rencontrera la semaine prochaine. Il craint de revivre les blocages de la grève générale de 2009.
Tout est bon pour créer un désordre. Il y a le problème du chlordécone, il y a le problème de la chèreté de licence. Comme il y a des élections présidentielles dans très peu de temps, toutes les raisons objectives sont réunies pour qu'il y ait un bordel.
Pour l'instant, le gouvernement se veut ferme. Hier soir, le préfet de Guadeloupe n'a pas souhaité nous répondre.
Et pour un Paris Pointe-à-Pitre, comme pour les vols long-courriers en général, il faudra bientôt dépenser plus. Facture alourdie par la hausse du prix du kérosène. Les clients belges d'un gros tour au opérateurs ont même dû rallonger les frais alors qu'ils avaient déjà payé leur billet, Philippe Lefebvre.
Ces clients belges du voyagiste allemand TUI pensaient bien avoir réglé la totalité du prix de leur voyage. Mais voilà, peu de temps avant le départ, l'entreprise leur a présenté une seconde facture de quelques dizaines d'euros pour compenser la hausse du prix du pétrole. Situation désagréable pour les voyageurs, mais pas surprenante, puisque récemment, l'Association internationale du transport aérien estimait que les prix des billets d'avion allaient forcément augmenter pour compenser la hausse du prix du kérosène qui représente 25% des coûts des compagnies. Mais en France, il faut savoir que les voyageurs sont protégés. Ainsi, durant les 20 derniers jours avant votre départ, le tour opérateur ou l'agence de voyage ne peut plus vous réclamer de frais supplémentaires et avant ce délai de 20 jours, l'augmentation est possible, mais elle ne peut dépasser les 8% du montant de votre voyage. Enfin, dans les toutes prochaines semaines, voyager coûtera de toute façon un peu plus cher. Ce sera le cas par exemple à Air France qui a annoncé récemment des hausses de 20 à 200 euros. Pour les vols long courrier.
Philippe Lefebvre, leur fausse déclaration de chômage partiel leur avait rapporté des centaines de milliers d'euros. Deux personnes ont été condamnées hier à Marseille, dont une à 5 ans de prison ferme, assortie d'une interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle. L'argent versé par l'État a été blanchi en Allemagne, en Belgique ou au Maroc. Les escroqueries au chômage partiel s'élèveraient à plusieurs millions d'euros.
Et lui a été blanchi par la justice de son pays.
Lula, l'ancien président brésilien, est à Paris, reçu à Sciences Po hier pour une conférence sur l'avenir du Brésil, en sachant que son avenir à lui sera peut-être celui de candidat à la présidentielle au Brésil l'an prochain. Il ne s'est pas encore déclaré, Benjamin Ely, mais sans doute y pense-t-il déjà en taillant sa barbe blanche.
Quand Lula est là, la batucada est sortie.
À la brésilienne.
Le comité d'accueil des étudiants de Sciences Po, mais attention, pas de complaisance.
Est-ce qu'il regrette d'avoir été impliqué dans le scandale de Petrobras ?
La question n'a pas été posée, mais l'intéressé aborde lui-même le sujet. On m'a condamné sans preuve ni motif. Cela a été une dure bataille pour rétablir mon innocence, dit l'ancien président. Ces condamnations pour corruption ont été annulées au printemps. Retour au thème du jour, très présidentiel. Quelle place pour le Brésil dans le monde de demain ? Lula met plus d'une heure à répondre. Une intervention aux allures de discours de campagne, vanter son bilan, attaquer le sortant. Il cible Jair Bolsonaro. Personne n'investit au Brésil parce que le gars est un militaire, évangélique, qu'il est impoli avec les femmes, parce qu'il n'aime pas les Noirs, parce que le gars brûle l'Amazonie. Alors qu'avec nous, le Brésil est devenu la sixième économie du monde. Nous avons créé 20 millions d'emplois. Ça suffit. Ce pays mérite mieux.
Lula, você é candidato presidencial.
Est-ce que vous êtes candidat à la présidentielle ?
Non.
Pas de réponse. Il nous renvoie à mars 2022. Il faut attendre. Lula, pas tout à fait candidat, mais favori des sondages, nous laisse là et s'éclipse sous les hurrahs.
Benjamin Ely, les États-Unis vont-ils boycotter les Jeux d'hiver de Pékin au mois de février ? Pas les athlètes, ils iront. Mais ni Joe Biden, ni aucun responsable de son administration ne devrait faire le voyage. C'est le Washington Post qui parle d'un boycott diplomatique que la Maison-Blanche devrait annoncer prochainement pour protester contre les violations des droits de l'homme en Chine. 2-0 pour les Bleus face à la Finlande hier à Helsinki. C'est le sans faute en clôture des qualifications mondiales de foot 2022 pour lesquelles les Français sont qualifiés depuis samedi. Hier soir aussi, les Pays-Bas ont décroché leur ticket comme l'Argentine. La Turquie et l'Ukraine devront passer par les barrages. Quelle sanction pour Marseille après les débordements qui ont émaillé son match face au PSG fin octobre, jet de projectiles et intrusion sur la pelouse. La Ligue va trancher et l'OM sera fixé aujourd'hui. Dans la foulée, d'autres sanctions après d'autres incidents, nombreux depuis le début de la saison de Ligue 1. Des supporters parfois déchaînés face à des stadiers en première ligne, mais de moins en moins nombreux, Luc Chemla.
C'est de plus en plus difficile d'en trouver depuis la crise sanitaire. Régis Attias s'en rend d'ailleurs compte. Lui-même stadier, il fait partie de l'encadrement dans une entreprise d'agents de sécurité à Lyon.
On a eu beaucoup de pertes au niveau salarié suite aux arrêts de cartes professionnelles. Certains ont perdu leur carte professionnelle parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur carte. Qui faisait agent de sécurité, mais qu'on pouvait se servir en tant que stadier, bien sûr.
Car stadier n'est pas un métier en tant que tel. Il n'est pas reconnu dans la convention collective. Ce sont des travailleurs qui ont tous un diplôme d'agent de sécurité et font ça parfois pour arrondir les fins de mois. Ou plutôt faisait.
Pendant toute la période de Covid où il n'y a pas eu de spectateurs dans les matchs, ce sont des gens qui avaient besoin quand même de gagner de l'argent et donc ont été sur d'autres professions et qui aujourd'hui ne veulent plus revenir en tant que stadier.
Stéphane Boudon préside le SNEP CFTC, un des syndicats des professionnels de la sécurité.
Ils préfèrent aller travailler le week-end, faire de la sécurité dans un centre commercial parce qu'ils auront des horaires qui seront prédéfinis alors que le stadier c'est vraiment très aléatoire.
Mais il y a une autre raison importante qui explique cette situation selon Stéphane Boudon.
Ils n'ont pas un vrai salaire. Si demain vous payez 20 euros de l'heure quelqu'un, vous allez trouver du monde pour venir travailler. Si aujourd'hui vous le payez 10 euros brut minutes de l'heure, bien sûr que ça n'attire pas.
Et le syndicaliste ajoute un autre problème, les stadiers n'ont pas de formation spécifique.
Voilà, stadier, un nouveau métier, si l'on peut dire, qui manque de main d'œuvre. Enfin voilà, qui rappellera des souvenirs à tous ceux qui ont connu l'ambiance des radios pirates avant la libération des ondes dans les années 80. Les magnétiques au cinéma, ce mercredi, un premier film récompensé à Cannes l'an dernier, c'était le prix de la quinzaine des réalisateurs. Une histoire de famille à l'énergie rock, filmée depuis les combles d'un garage dans une petite ville de province. Deux frères épris de musique avaient monté leur propre radio. Un film à découvrir de toute urgence si vous êtes nostalgique du son de ces années-là, nous dit Corinne Pellissier.
François Mitterrand est élu président.
Il était trop jeune pour s'en souvenir. 1981, François Mitterrand au pouvoir, la libération des ondes et les débuts de la scène rock alternative à la radio. Vincent Maël Cardona livre pourtant ici une vision très juste et pleine de souffle de l'époque à travers le portrait de ses deux frères, Philippe et Jérôme, le timide et le vénéneux, tous les deux passionnés de musique, occupés à inventer tous les soirs la programmation, les jingles de Radio Varso depuis les combles du garage familial.
La seule chose qui me préoccupait, c'est qu'on allait passer à l'antenne.
Le premier à la console, le second au micro, autour des tubes des Stooges, de Mark Itzad ou de Joy Division, musique emblématique pour le réalisateur, d'une jeunesse en ébullition, prête à changer le monde, en dépit de lendemains qui déchantent.
C'est très profond ce que j'entends dans cette énergie-là, dans cette rage de vivre. C'est une musique qui, pour moi, a capté quelque chose d'une certaine jeunesse, qu'on retrouve aujourd'hui très fortement.
Ce premier film séduit d'abord par sa BO et son énergie très rock, mais aussi par son esthétique vintage et son approche très organique du son. Les micros, les casques, les consoles, les platines, tous les objets cultes de la radio sont filmés ici avec beaucoup de poésie, sans jamais oublier la réalité sociale d'une fratrie, les deux pieds bien ancrés dans la terre. Une histoire d'émancipation dans une petite ville de province des années 80 qui parlera à de nombreux spectateurs.
Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona, et c'est un film France Inter, évidemment.
Merci Florence Paracuelos. Météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et c'est un ciel bien gris, Marie-Pierre, sur les trois quarts du pays.
Et oui Nicolas, et aux grisailles d'hier s'ajoutent du nord-est jusqu'aux Pyrénées ce matin une petite perturbation qui rentrait par le nord-ouest avec un peu de crachin entre les Pays de la Loire, le bassin parisien et des brouillards même comme vers Orléans, dans la Seine-et-Marne ou vers Nantes ou Nevers. En revanche, le soleil se mobilise du Roussillon aux Alpes avec deux bémols quand même. On a un débordement nuageux venant d'Italie qui donnera quelques flocons sur les Alpes frontalières et des ondées jusqu'à la Côte d'Azur. Et puis en Corse, on a toujours des averses et des orages sur l'est de l'île, où il fait doux ce matin, 15 à Ajaccio, alors qu'on relève moins 1 dans les roues. Il fait 3 à Brive, 5 à Lille, 7 à Toulouse, 8 à Paris et 10 à Calais.
Et pas beaucoup de changements cet après-midi.
On aura quand même quelques éclaircies, Nicolas, qui arriveront. Ouais, on compte sur elles. Hein. Elles vont percer de la Bretagne aux côtes de la Manche en descendant vers les Pays de la Loire, Hauts-de-France et même sur la région parisienne. Et sur le pourtour méditerranéen, ça restera ensoleillé, même sous le vent, sauf en Corse où de nouvelles averses orageuses vont se réactiver. Côté du Mercure, au plus bas, il fera 7 à Chamonix, 8 à Metz, 9 à Mulhouse, Clermont-Ferrand ou Tarbes. Vous aurez 10 à Limoges, 12 à Bordeaux, 13 à Paris et au Havre, 14 à Nantes, à Cherbourg, 15 à Marseille et 19 à Ajaccio.
Merci Marie-Pierre et merci à vous d'écouter France Inter. Il est 8h18, géopolitique.